le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes en direct de Lyon, Eurexpo, qui est un petit peu loin du centre-ville, mais bon, on a réussi à y arriver pour ce congrès HLM, 82e du nom, qui se tient donc du 27 septembre au 29 septembre à Lyon. Je suis en compagnie de Yannick Borde. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Vous êtes président du réseau Procivis, directeur général du groupe immobilier Procivis Ouest et maire de Saint-Berthevin. C'est en Mayenne.
C'est bon, parfait.
Groupe Procivis, réseau Procivis, expliquez-nous de nouveau la... Parce que vous êtes un familier, un habitué des antennes de Radio Immo, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore.
Donc le réseau Procivis, c'est une des familles du monde HLM. Donc nous sommes adhérents de l'USH. Donc en ma qualité de président du réseau, je suis aussi vice-président donc, de l'Union sociale pour l'habitat. C'est ce qui explique notre présence en nombre pendant ces trois jours à Lyon à l'occasion du congrès. Le réseau, c'est d'abord un ensemble de sociétés. Il y a 47 sociétés. On exerce des métiers d'accession sociale, de promotion immobilière en accession sociale et puis en accession concurrentielle. On a une activité de constructeur de maisons individuelles. On a un gros réseau d'agences immobilières. On a une branche de logement social. Donc on est, nous, sur toute la chaîne du logement. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai sur tous les territoires, mais globalement, c'est à peu près la marque de l'organisation du réseau. Avec, pour donner quelques chiffres, c'est 3500 collaborateurs, 1,6 milliard de chiffre d'affaires en 2021. Et une particularité aussi, nous sommes les sociétés de tête du réseau, sont des sociétés coopératives, donc des secteurs de l'économie sociale et solidaire, ce qui veut dire que la performance que nous avons dans notre activité, les résultats que nous dégageons, sont soit réinvestis dans le développement, principalement réinvestis dans le développement de nos activités, mais également dans des actions sociales dans le domaine du logement. Puisque nous sommes en convention avec l'État et si je donne le chiffre de 2021, par exemple, c'est 80 millions d'euros que nous avons mobilisés pour accompagner les familles modestes ou très modestes dans le cadre d'opérations de type travaux de précarité énergétique, sortie d'insalubrité, etc. Voilà, donc un réseau sur toute la chaîne du logement avec ce côté atypique d'être un acteur de l'ESS.
Yannick Borde, une question tout de suite d'actualité. Quand on démarre ce salon qui va être placé, à n'en pas douter, sous le signe des préoccupations liées au coût de l'énergie. On le sait, hein, ça pèse évidemment sur les charges de plus de 10 millions de locataires. On le rappelle, c'est le nombre de personnes qui sont en HLM. Évidemment, ce sont souvent des personnes déjà les plus fragiles économiquement, qui sont encore fragilisées. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ?
Alors, effectivement, il y a 5,5 millions de logements sociaux. Donc, on va avoir... une vraie vigilance par rapport à ça, puisque le bouclier tarifaire qui a été le soutien apporté par l'État, qui était essentiel et qui est crucial et qui est important, va se réduire progressivement, notamment au 1er janvier prochain. N'oublions pas non plus que dans tout le parc locatif privé, on va se retrouver dans des situations assez identiques. Ceux qui sont aussi propriétaires de leur logement vont certainement avoir quelques mauvaises surprises avec le coût de l'énergie. Donc on a vraisemblablement là quelque chose qui est assez préoccupant, bien au-delà des seuls locataires HLM. Après, concernant le parc social, là où l'attention va être portée ces prochaines semaines, c'est qu'on va arriver dans les périodes de régularisation de charges. On va arriver dans des moments où il va falloir discuter de la remise en chauffe des bâtiments. Oui. Et on voit bien qu'on est tous en train d'essayer de réfléchir à ne pas exagérer. Il y a ce mot sobriété qui est employé dans de multiples cas depuis cet été. Donc il va falloir y arriver, mais il va falloir y arriver aussi avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, puisque je pense que ça va être compliqué pour un certain nombre d'habitants d'accepter qu'on ne mette pas le chauffage à la date peut-être prévue initialement, la volonté de baisser un peu les températures. Comment est-ce qu'on arrive les uns et les autres dans notre quotidien à peut-être faire attention à la consommation énergétique. On peut s'interroger par exemple sur les parties communes, sur les endroits où il peut y avoir des éclairages extérieurs, des choses comme ça, pour essayer de limiter un peu la facture et la régularisation le moment venu.
Ouais, ça peut être un effort quand même assez important pour les locataires. Emmanuel Cosre disait, la présidente de l'USH, Union sociale pour l'habitat, disait que 35% étaient déjà sous le seuil de pauvreté. On sait que les coûts de l'énergie ont explosé. Ça veut dire, vous en parlez, quand il va y avoir ce rééchelonnement, on peut avoir des factures qui vont grimper, qui font faire x2, x3, x4. Certains professionnels parlent de x10 et donc des répercussions en dizaines, en centaines d'euros pour certains locataires.
Ce qui est certain, c'est que la population logée par le parc social, c'est une population en grande partie modeste. Aujourd'hui, quand Emmanuel précise qu'il y a 35% des locataires qui sont sous le seuil de pauvreté, elle insiste bien sur la population logée. Donc je pense qu'il n'y a pas, personne ne remet en cause la typologie de la population que nous logeons. Et en plus, il faut aussi se rendre compte, moi je le vois par exemple sur la commune dont je suis maire, qui est une commune SRU, donc avec du logement social, c'est qu'on remplace la plupart du temps celui qui part par quelqu'un de plus modeste, ou en tout cas par rarement quelqu'un de plus aisé. Donc on a quand même une population et qui se fragilise et qui est de plus en plus sensible sur les questions financières. Donc effectivement, dès qu'on arrive avec des périodes comme aujourd'hui, peu anticipées, parce qu'on parle de l'énergie qui est un peu sur le haut de la pile, mais il y a tout l'enjeu inflation aussi, puisque dans le coût de fonctionnement des organismes, il y a la maintenance ascenseur qui va augmenter, l'entretien qui va augmenter, les espaces verts, l'entretien des espaces extérieurs qui peut augmenter, la masse salariale des entreprises qui est aussi soumise à rude épreuve dans le contexte inflationniste que subissent ses salariés. Voilà, donc on est en train de faire bouger un peu tous les équilibres et le modèle économique. Donc il va falloir y aller avec parcimonie. Et puis moi, je fais confiance aux organismes qui connaissent très bien leurs locataires pour aussi travailler les cas par cas et les échelonnements et faire en sorte que ça ne fragilise pas. Parce que si ça fragilise l'occupant, ça fragilise aussi l'organisme. Donc voilà, tout le monde est un peu, les bien-être peuvent être un peu alignés pour trouver les bonnes formules.
Alors on reste dans le domaine énergétique. C'est maintenant celui de la deuxième défi, de la rénovation. L'accélération de la rénovation énergétique, elle est indispensable évidemment. On l'a aussi pour faire baisser les factures. Et puis n'oublions pas que les classes E, F, G seront à terme interdites à la location. Est-ce que le planning pour vous, avec ces échéances 2025-2028, etc., est tenable, Yannick Borne?
Alors la profession dans son ensemble dit qu'il n'est pas tenable, je vais être assez en phase avec ça. Après, je pense qu'il faut démarrer, il faut maintenir la pression au démarrage, et puis on verra en fin de compte ce qui se passera. Moi je pense qu'il n'est pas facile aujourd'hui d'enclencher ce type de travaux, ils sont complexes, ils sont budgétairement assez lourds, et donc à un moment donné, s'il n'y a pas une pression très forte sur les échéances, on peut craindre que la massification ne sera pas au rendez-vous. Donc allons-y. Et puis le moment venu, quand on arrivera aux échéances pour telle ou telle étiquette en difficulté, je pense qu'il faudra faire un peu le bilan de ce qui a été fait, pas fait. Et s'il en reste quelques milliers à faire, alors qu'il y en avait plusieurs dizaines de milliers au démarrage, il faudra peut-être donner un tout petit peu de souplesse pour les derniers. Mais je pense qu'il faut maintenir la pression. C'était un peu la discussion qu'on avait eue avec le précédent ministre du Logement. Maintenant, ce qui m'inquiète un petit peu plus, il y a deux choses qui m'inquiètent en fin de compte dans cette ambition-là. La première, c'est que je pense qu'on n'a pas, ça a été imaginé, en tout cas planifié dans une période où le contexte des coûts de construction n'était pas ceux d'aujourd'hui. Et donc là, évidemment, on va avoir un... Alors on nous dit l'augmentation du prix d'énergie fait que le retour sur investissement est plus fort. Oui, mais l'investissement va être plus fort. Donc en fin de compte, ça reste à démontrer. Et puis je suis un petit peu inquiet aussi sur l'offre des entreprises du bâtiment. C'est-à-dire on a aujourd'hui beaucoup de difficultés à trouver des entreprises. On a beaucoup de difficultés. Elles ont beaucoup de difficultés à stabiliser et à trouver des salariés. Donc une équation qui va sans doute, qui n'était pas celle qu'on avait au moment où c'est... ces échéances et ces décisions ont été prises. Donc là aussi, ça sera certainement à prendre en compte à un moment donné.
C'est noté pour ces deux inquiétudes. On termine avec la construction qui est en berne, alors qu'on a plus de 2 millions de personnes qui attendent, qui sont dans l'attente d'un logement social. Et pourtant, c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire sortir les chiffres. Hein, 250 000 logements, avait promis Emmanuel Wargon sur la période 2021-2022. On en est malheureusement un petit peu loin.
C'est le gros sujet à mon sens, puisque aujourd'hui la chaîne du logement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle fonctionne avec tous les acteurs et tous les secteurs. C'est-à-dire si vous ne construisez pas en accession sociale à la propriété, vous ne faites pas sortir des locataires du parc HLM ou du parc social. Si vous ne construisez pas du locatif, vous ne faites pas rentrer les jeunes ménages dans le logement, dans un logement autonome. Voilà. Donc on a toute une chaîne qui aujourd'hui est malade, hein, est complètement rompue. Alors il y a plusieurs facteurs à ça, hein. Il y a je pense une vraie difficulté de construire. Je lisais ce week-end une tribune d'un certain nombre de maires dans le journal du dimanche sur la problématique foncière et de faire jouer un rôle à l'État dans ce domaine-là. Pourquoi pas, c'est pas nécessairement la piste que moi je prendrais, mais en même temps je pense qu'il faut que les élus poussent aussi la construction de logements. Il faut qu'ils aillent au maximum de ce que leur PLU le permet. Il y a aussi quelques études très récentes qui sont des études assez nouvelles mais intéressantes où on fait remarquer qu'on ne construit que à 50-60% de ce que les PLU permettent de faire, les plans locaux d'urbanisme. Voilà, donc il faut que tout le monde déclare quand même qu'on a vraiment besoin de logements. Moi je souhaite, ce sera un peu mes propos quand je serai en tribune ces prochains jours, de dire il faut que l'État, le monde HLM et tous les acteurs de la profession plus largement diagnostic quand même, fasse ce diagnostic en début de quinquennat pour bien voir qu'on est sur la même ligne et qu'on se dise oui, il y a besoin de logement. Mmh. Où est-ce qu'il y a besoin de logement? Puisque ça a beaucoup bougé, ça aussi, notamment avec la crise sanitaire et un certain nombre de territoires qui ont vu leur attractivité évoluer. Voilà, donc la construction neuve, elle va être compliquée. Elle va d'autant plus être compliquée qu'elle aussi, elle souffre de la capacité des entreprises du bâtiment à faire. Et elle va être compliquée aussi avec des coûts de construction qui ont littéralement explosé. Pas toujours très compréhensible, mais qui va remettre en cause aujourd'hui les équilibres d'opération dans le parc social, comme dans le parc privé, comme dans la promotion immobilière concurrentielle, où aujourd'hui, beaucoup de programmes sont au minimum décalés et pour certains annulés.
Voilà, bah autant de défis, hein, hausse des prix de l'énergie, rénovation énergétique, construction, dont on va parler tout au long de ces 3 jours. Merci à Yannick Borne, hein, président du réseau Procivis, directeur général du groupe immobilier Procivis Ouest, maire de Saint-Berthevin. Et puis merci à Procivis de nous accueillir sur son stand au
Bienvenue
sein
vous.
De
merci.
L'USH. À très bientôt sur Radio Immo, Radio Territorial.
Merci beaucoup.
Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon en partenariat avec Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.